Une enquête ouverte après la découverte d'un corps hier sur la plage de Magenta. Aucune hypothèse n'est pour le moment privilégiée. Sur la scène nationale, une mobilisation des policiers dans plusieurs grandes villes de métropole. Ils demandent plus de moyens pour lutter contre l'insécurité. Une explosion en Iran présentée comme une fuite de gaz par les autorités du pays survenue dans un contexte de forte tension, alors que les Américains sont déployés dans le golfe Persique. Dans le Pacifique, l'heure des premiers bilans après les incendies qui ont touché l'Australie. Dans le Victoria, 120 000 hectares de terres agricoles brûlées et plus de 40 000 bêtes qui ont péri dans les flammes. À Nouméa, c'est le retour du vide-grenier sur la place des Cocotiers ce dimanche. Premier rendez-vous de l'année 2026 pour cet événement populaire. Le sport du tennis, Elena Rybakina retrouve un titre en Grand Chelem. Elle s'est imposée en finale à Melbourne hier soir face à la première joueuse mondiale, Aryna Sabalenka. Et la fin de l'aventure en Nouvelle-Zélande pour le club Pacific 13, des Calédoniens qui étaient en séjour à Whangarei autour de la pratique du rugby à 13. Bonjour et soyez les bienvenus dans Info Weekend pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. À la une en Calédonie, à Nouméa, un corps sans vie retrouvé ce samedi sur la plage de Magenta près de l'aérodrome. Après un appel à témoins lancé par la police nationale, les parents ont formellement identifié leur fils hier soir, Léana Colombo.
Oui, l'alerte a été donnée hier vers midi 20. L'homme a été découvert par des personnes se rendant à la plage de Magenta. Aucune pièce d'identité n'a été retrouvée sur lui et son corps ne présentait pas de traces apparentes de violence. Selon les premiers éléments, les enquêteurs estiment qu'il aurait passé une dizaine d'heures dans l'eau et il n'aura suffi que de quelques heures pour que l'appel à témoins de la police porte ses fruits. Hier, en fin d'après-midi, deux personnes se sont rendues au commissariat puis ont identifié leur fils qui avait disparu depuis décembre dernier. Une enquête est toujours en cours pour déterminer les causes de la mort.
Toujours au chapitre des faits divers à Nouméa, le magasin Speed Marine a été victime dans la nuit de vendredi à samedi, d'un vol par effraction aux alentours de 2h du matin. Il s'agit du deuxième cambriolage en peu de temps pour cette enseigne. Les voleurs sont repartis avec la caisse du magasin et sont toujours recherchés par la police. Une enquête a été ouverte. À la une de l'actualité nationale, les policiers étaient mobilisés en métropole à l'appel du syndicat Alliance Police. Des manifestations, notamment à Lille, Marseille, Bordeaux, les forces de l'ordre ont fait entendre leur colère face au manque de moyens alloués à leur profession et face à l'insécurité grandissante. À Paris, plus de 20 000 personnes étaient rassemblées pour une marche vers la place de la Nation, avec dans le cortège des policiers, mais aussi une partie de la population venue apporter son soutien. Reportage d'Antoine Bienveau pour Europe 1.
Sur l'avenue du Faubourg Saint-Antoine, ils sont des milliers, parfois le drapeau français à la main, à suivre déterminés le camion bleu du syndicat Alliance Police. Dans la foule, beaucoup ont dans la bouche des sifflets distribués par les organisateurs.
Le sifflet, c'est juste pour se faire entendre. Il y a des manifestations où les gens cassent, insultent. Nous, on siffle.
Un signe de protestation pacifique pour dénoncer le ras-le-bol ressenti par ce policier.
La situation s'aggrave. Il y a des problèmes de matériel, il y a des problèmes d'effectifs. D'un moment, on ne pourra plus défendre les gens du quotidien, il faut que les gens se rendent compte.
Alerter la population, c'est justement l'enjeu de cette manifestation et beaucoup de Parisiens ont visiblement bien reçu le message.
Je soutiens les policiers, je sors rarement pour manifester, mais là, je baisserai pas les bras.
Pour ceux qui disent que la police tue, je ne crois pas, elle est juste là pour la sécurité des Français. Nous les soutiendrons toujours parce que c'est important.
Un élan de solidarité qui touche Fabien Van Emmelric, secrétaire général d'Alliance Police.
Le peuple, lui, il est dans la vraie vie et j'espère que le gouvernement va entendre la colère du peuple et j'espère que on ne va pas oublier que la sécurité, c'est la première de nos libertés, donc il nous faut les moyens.
Après 2 heures de marche, le rassemblement se termine dans le calme et sous les applaudissements de la foule venue soutenir les policiers.
Antoine Bienveau pour Europe 1. Et notez qu'après la publication des derniers chiffres de l'insécurité en métropole, Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, a reconnu une augmentation de la violence, mais il appelle également à rester raisonnable dans l'interprétation et l'utilisation de ces chiffres.
À Radio Rythme Bleu, 7h04.
À la une de l'actualité à l'international, les tensions en Iran et cette explosion présentée par les autorités iraniennes comme une fuite de gaz survenue à Bandar Abbas dans un port du sud de l'Iran. Des incidents distincts ailleurs dans le pays ont été rapportés, mais les médias nationaux ont pris soin d'écarter tout lien avec une attaque ou un sabotage potentiel. Des faits qui surviennent dans un contexte que l'on sait très tendu ces derniers jours. Donald Trump, le président américain, a multiplié les menaces d'attaque contre l'Iran et a déployé une dizaine de navires dans le golfe Persique. Pour David Rigolet-Rose, chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique, il faut rester très prudent sur les les causes possibles de cette explosion.
Effectivement, ça suscite des interrogations puisque la version officielle s'est signalé que ce serait le résultat d'une fuite de gaz, ce qui demeure sujet à caution puisque le bâtiment n'était pas relié au gaz. On peut certainement pas exclure une origine effectivement non accidentelle. Alors après, indéterminée, c'est pas sans précédent, y compris à Bandar-Abbas puisque en avril 2025, il y a eu une énorme explosion dans le port, initialement due à un incendie accidentel, et puis en réalité il est aujourd'hui avéré que c'était le résultat d'une opération clandestine. Donc il faut attendre des confirmations éventuelles, tout est possible et envisageable, a fortiori dans le contexte actuel. Mais en tout cas, effectivement, ce sont des signes potentiels d'une accélération des événements par rapport à la pression militaire maximale qui est faite par l'armada américaine autour de l'Iran.
David Rigolet-Rose, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Et dans ce contexte, Israël se prépare à tous les scénarios. Frédéric Simon est le correspondant d'Europe 1 à Tel Aviv.
Eh bien, les Israéliens se préparent à toutes les éventualités, y compris celle d'une attaque de missiles iraniens vers leur territoire avant même que les États-Unis aient ordonné d'éventuelles frappes en Iran. Une intervention américaine considérée comme hautement probable en Israël aurait comme conséquence presque certaine une riposte iranienne vers l'État hébreu. Or, l'Iran dispose encore de missiles de longue portée capables d'atteindre avec précision le territoire israélien. En juin dernier, au cours de la guerre entre les deux pays, ces missiles avaient causé la mort de près de 30 personnes, ainsi que d'importants dégâts. Une possible offensive américaine contre le régime des Mollahs implique donc de sérieux dangers pour Israël et sa population civile. Mais du point de vue israélien, le risque vaut la peine d'être couru si toutefois les frappes ordonnées par Donald Trump aboutissent à un affaiblissement du régime, voire à sa chute. Le commandant en chef des renseignements militaires était d'ailleurs récemment à Washington, très probablement pour fournir aux Américains des informations de nature à maximiser l'efficacité des frappes. Quant à l'option de la relance des négociations entre Washington et Téhéran, qui a été évoquée par Donald Trump. Elle suscite l'inquiétude. Les Israéliens redoutent que le régime iranien finisse par se maintenir, voire par se renforcer, s'il parvient à convaincre le président américain qu'il est disposé à des compromis.
Frédéric Simon depuis Israël pour Europe 1 et toujours à l'international concernant cette fois la guerre en Ukraine. L'envoyé spécial de Donald Trump, Steve Witkoff, s'est félicité d'avoir eu des discussions constructives en Floride avec l'émissaire russe. Kiev dit de son côté se préparer à des rencontres la semaine prochaine pour faire avancer les négociations avec Moscou.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. À Koumac, c'est le 99.
À la une de l'actualité dans le Pacifique, en Australie, plusieurs incendies de grande envergure brûlent toujours dans l'état du Victoria. Ils ont notamment causé d'importants dégâts dans le secteur agricole. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
D'après un premier bilan provisoire du ministère de l'Agriculture du Victoria, plus de 120 000 hectares de terres agricoles ont déjà brûlé. Près de 35 000 moutons, 3 000 bovins, une centaine de chevaux et 7 000 volailles ont péri et 550 ruches ont été détruites. Plus de 7 000 km de clôture l'ont également été, tandis que près de 30 000 tonnes de fourrage ont été calcinées. Plus de 70 hangars et le matériel agricole qu'ils contenaient ont aussi été la proie des flammes. Plusieurs grands incendies continuent de brûler dans l'ensemble de l'État, où ils ont déjà consumé plus de 550 000 hectares de végétation et détruit plus de 250 habitations. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Il est 7h passé de 9 minutes, une page de publicité dans ce journal avant de voir ce qui fait le reste de l'actualité en Calédonie. À tout de suite.
Accueil détendu, équipe dynamique, toujours un sourire au Bilboquet Plage.
En tête à tête ou avec des amis, toujours de la place au Bilboquet Plage.
De la simple salade au saumon fumé, toujours un grand choix au Bilboquet Plage.
Du soleil de midi aux 12 coups de minuit, toujours nous servons au Bilboquet Plage.
Au Palm Beach à Lanzvata, face aux îlots, Bilboquet Plage, un plus pour le week-end.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La suite d'Info Weekend, on retrouve Mickaël Juleski.
Une coupure de courant dans le Grand Nouméa hier soir. L'incident s'est déroulé à 19h23. L'origine est pour le moment inconnue, mais le centre-ville de Nouméa semble avoir été épargné par la panne. EEC a déclaré sur ses réseaux sociaux que l'ensemble de ses clients avait été réalimenté à 20h33. Au chapitre politique, deux rendez-vous se déroulaient ce samedi chez les indépendantistes. D'un côté, une assemblée générale du Palika à la tribu de Chambouen à Puebo. De l'autre, l'UPM qui tenait également son comité central dans la tribu de Goyeta à Ponérewin. Un nouveau point devait notamment y être fait concernant l'accord Élysée-Oudinot. À Nouméa, le retour du vide-grenier de la place des Cocotiers, c'est aujourd'hui. Plus de 250 stands seront installés de 8h à midi, du kiosque à musique jusqu'en bas de la place de la Paix. Les précisions d'Edwige Cani, chef de projet culturel pour la ville de Nouméa.
On reprend nos vide-greniers pour la saison 2026. Donc notre premier vide-grenier est complet. Nous avons 253 stands. Notre billetterie qui s'est ouverte le 21 janvier en moins d'une heure. Nous avons rempli les 253 stands.
C'est la rentrée scolaire, ce sera l'occasion de faire le plein au niveau de tout ce qui est tenue vestimentaire pour les petits comme pour les grands.
Oui, très souvent, le premier vide-grenier est très sollicité justement pour cette rentrée, aussi bien pour habiller les petits, les grands, même pour les chaussures, les pantalons, pour la rentrée. Et on peut avoir potentiellement des fournitures scolaires comme des cartables, des sacs à dos, ou les chapeaux, des casquettes, des vêtements de sport aussi pour cette rentrée. Donc le premier vide-grenier de l'année est toujours très sollicité pour ça.
Le premier vide-grenier de la ville de Nouméa, c'est donc de 8h à midi sur la place des Cocotiers. En bref, une baisse des prix pour les carburants pour le mois de février. Depuis minuit, l'essence est affichée à 152,70 francs le litre contre 158,80 francs au mois de janvier, ce qui représente une baisse de 6,10 francs côté gazole. Les stations affichent un prix en baisse de 8,30 francs, le litre passant de 144,40 francs à 136,10 francs. Les pêches aux picots et aux crabes réouvertes ce dimanche. Chaque année, les provinces nord et sud prennent des mesures, en effet, pour laisser aux espèces le temps de se reproduire, Lana Colombo.
La pêche et la vente étaient interdites depuis le 1er septembre pour le picot et le 1er décembre pour le crabe de palétuvier. Cette période a donc pris fin. Du côté du marché de Nouméa, les pêcheurs et revendeurs se réjouissent du retour des picots et crabes sur leurs étals. C'est le cas de Sandra et Diana qui recevront leur premier arrivage jeudi prochain.
C'est très demandé le crabe et le picot. Au moins, ça fait 400 kilos, 500 kilos. Ah oui, oui, les gens, ils demandent, hein, vous aurez des picots, des crabes? Je dis oui, oui, mais jeudi. L'ouverture des crabes et des picots, ça nous fait vraiment du bien.
Ah oui, pour beaucoup, ben oui, parce que le crabe, c'est quand même le produit principal à Nouméa, qui est apprécié de tous par rapport aux crevettes, langoustes. Ça reste le numéro un de la vente. C'est vrai qu'on a perdu beaucoup de clientèle par rapport au Covid, aux émeutes qu'il y a eu il y a 2 ans. Mais bon, on a quand même notre clientèle qui est là et puis ben, il faut savoir patienter.
Pêcher les picots et les crabes, oui, mais en suivant des règles, car il faut que la pratique soit durable et donc respectueuse de l'environnement. Ne pas pêcher des crabes et poissons trop petits, ni en trop grosse quantité. Les détails avec Tiffen Reed, adjoint au chef de service de prévention de proximité et d'accompagnement technique à la 3DT de la province sud.
Le cramou est interdit toute l'année, hein. Donc là on n'a pas de question d'ouverture ou de fermeture. Par contre, là, à la réouverture, on va pouvoir pêcher des crabes qui sont au-dessus de 14 cm. Cette taille-là, elle a été mise en place pour être sûr qu'en fait, les individus sont matures sexuellement, qu'ils sont déjà reproduits, et donc on impacte moins la ressource quand on prend ces individus-là. Pour les picots, donc là, on réouvre toutes les espèces de ciganidés, donc ce sont différentes espèces de picots. On a une taille réglementaire pour le picot rayé, qui est de 20 cm, donc la longueur jusqu'à la fourche. Pour toutes les autres espèces, on n'a pas de taille.
Des contrôles sont régulièrement effectués. Les personnes ne respectant pas ces règles encourent jusqu'à 2 684 000 francs, car la pêche hors limitation est considérée comme un délit. Autre point souligné par la province, la vente et l'achat sont limités aux pêcheurs professionnels. Les personnes qui vendent sans autorisation, tout comme leurs acheteurs, s'exposent à des sanctions. En cas de doute, la province sud met à disposition un guide du lagon disponible en ligne. Et puis il y a des réglementations également en province nord, mais légèrement différentes. La taille des crabes et picots sont aussi limitées à 14 et 20 cm, mais le quota maximal est de 10 kg de produits du lagon par personne, avec un maximum de 40 kg par bateau et par sortie.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. À Bouraille, c'est le 99.
Cela faisait 24 heures qu'ils imaginaient comment utiliser les données satellites et la technologie spatiale pour améliorer le quotidien des Calédoniens. L'événement Act in Space New Caledonia a pris fin hier après-midi, Léana.
Ils étaient 19 courageux répartis en 5 équipes à avoir relevé ce challenge international. Je rappelle rapidement le principe. En 24 heures, chaque équipe devait résoudre un défi sur la base de données et technologies spatiales. 27 thématiques étaient proposées par l'Agence spatiale française. Et hier, à 15h, heure de la fin du défi, les équipes ont ensuite eu quelques minutes pour présenter et défendre leur projet devant un jury, puis 5 minutes de questions-réponses. À l'issue des délibérations, c'est l'équipe Les Passeurs d'Images qui l'a emporté avec un sujet bien précis que nous détaille le membre du groupe, Rémi Andréoli.
Le thème qu'on a choisi est de repenser le marché de l'économie de la donnée spatiale dans un écosystème aujourd'hui qui est en pleine mutation, en pleine évolution. Et l'objectif de l'équipe et la proposition de valeur que nous faisons est de considérer ces données comme un bien commun sur lesquels, avec des outils de traçabilité, on va pouvoir créer de la valeur et pouvoir financer de l'acquisition d'observations.
Julienne Bourgine et Laurent Buis, les deux autres membres du groupe Les Passeurs d'Images, expriment quant à eux leur satisfaction après cette victoire.
C'est une grande fierté d'avoir gagné aujourd'hui, pouvoir représenter la Nouvelle-Calédonie à cette première édition d'Act in Space et de pouvoir partir à Bordeaux et possiblement remporter la finale, même l'édition en France et le mondial peut-être.
Déjà de gagner, c'est une grande satisfaction, mais ça fait toujours un petit pincement au cœur parce que les autres participants étaient super et leur projet était également super. Donc c'était une super aventure humaine d'abord. Et effectivement, on va travailler très 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 dur pendant les deux prochains mois pour faire honneur à toutes les autres équipes et à la Nouvelle-Calédonie pour gagner. Merci.
La Nouvelle-Calédonie participait pour la première fois à ce défi et prochaine étape pour les lauréats, la finale nationale qui se déroulera à Bordeaux le 1er avril prochain.
Dans le reste de l'actualité, en bref, la commune de Thiau accueille toujours les visiteurs à la tribu de Grand Borindi, au programme encore aujourd'hui des excursions en bateau, balades pédestres, initiation au tressage ou encore des ateliers culinaires. Il est 7h passé de 17 minutes, une dernière pause publicitaire et on voit tout le sport.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achat, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
Jusqu'au 6 février, gagnez un séjour enchanteur à l'hôtel Coulnoué Village. Logez 5 nuits en bungalow premium avec vue mer, petit déjeuner et buffet du soir pour 2 personnes. Profitez de la mer, de la piscine ainsi que de nombreuses activités sur place. Un cadeau d'une valeur de 136 000 francs. Pour jouer, c'est facile, envoyez chance au 40-20. L'hôtel Coulnoué Village vous accueille toute l'année dans un cadre idyllique en face de la poule de Yengen. Toutes les actus sur le Facebook de l'hôtel. Alors pour décompresser, envoyez chance au 40-20. Tirage au sort le vendredi 6 février à 14h, 371 francs par SMS. Et sur Radio Rythme Bleu, il n'y a pas de jour sans jeu.
Tout le sport en 3 lettres, RRB. L'actualité sportive, on retrouve Mickaël Juleski.
Et à la une du sport, du tennis et la finale dames à l'Open d'Australie. Elena Rybakina s'est offert le titre hier soir contre Arina Sabalenka et Anna Colombo.
Et c'était l'heure de la revanche pour la kazakhstanaise. Les deux adversaires s'étaient déjà affrontés en 2023 en finale d'Open d'Australie. Arina Sabalenka avait alors triomphé d'Elena Rybakina. Mais cette fois, les rôles ont été inversés. Menée 3-0 dans le troisième set, la tête de série numéro 5 a gardé la tête froide pour renverser la numéro 1 mondiale et s'impose 6-4, 4-6, 6-4. Rybakina compte désormais 2 titres du Grand Chelem à son palmarès, Wimbledon 2022 et l'Open d'Australie 2026. À l'issue du match, Elena Rybakina a déclaré qu'elle savait qu'elle devait jouer un tennis risqué pour battre la Biélorusse.
C'est un exploit incroyable. Je suis super heureuse et fière. Le combat a été vraiment difficile. Je ne m'attendais pas à renverser la situation. J'ai eu quelques occasions. Arina est une adversaire redoutable, mais je suis vraiment ravie de soulever le trophée cette fois-ci. Grâce à ce succès en Grand Chelem, Elena Rybakina passera de la 5e place au 3e rang mondial en début de semaine prochaine.
Et je rappelle que chez les messieurs, nous aurons droit à un beau duel ce soir à Melbourne entre le numéro 1 mondial, l'Espagnol Carlos Alcaraz, et le Serbe Novak Djokovic, 38 ans et en quête d'un 25e sacre en Grand Chelem. Le football avec la 20e journée de Ligue 1 et l'Olympique de Marseille qui n'a pu faire mieux qu'un match nul sur le terrain du Paris FC, 2-2. Les Marseillais qui perdent des points précieux dans la course à la première place alors que les Lensois sont repassés en position de leader provisoirement hier devant le PSG qui ne jouera que demain matin. Autre résultat, Lorient qui a battu Nantes sur le fil 2-1. En ce moment même, Monaco reçoit Rennes.
Vibrez au rythme du rugby avec Société Générale, partenaire majeur du Top 14. À vos côtés sur le terrain comme dans la vie.
La 16e journée du championnat de France de rugby et le Stade français qui chute du podium après sa défaite à Montpellier sur le score de 44-7. De son côté, Castres a battu Clermont 28-23. Le Racing 92 s'est imposé difficilement sur Perpignan, l'avant-dernier du Top 14, 37-31. Lyon s'est imposé à l'extérieur sur la pelouse de La Rochelle 44-24. Montauban a perdu contre l'Union Bordeaux-Bègles 31-16. Le club de Montauban est toujours lanterne rouge du championnat de France. En ce moment même, le leader Toulouse affronte Bayonne.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. Au Mont d'Or, c'est le 100.4.
Le sport côté calédonien, une expérience enrichissante pour le rugby à 13 calédonien. Depuis une semaine, la jeune formation Pacific 13 est en Nouvelle-Zélande pour se confronter au niveau océanien. Malgré une défaite au dernier match avant-hier contre les North Island Pacifica Rugby League 44-12, Manu Jalabert, le responsable du club calédonien, se félicite des liens tissés avec les joueurs néo-zélandais durant cette tournée.
En face, on avait vraiment des gros gabarits. Bon, on a pu mesurer la différence et puis voir que bon, il fallait qu'on améliore pas mal de choses. Ensemble, on a pu améliorer le système de défense, voir un petit peu des combinaisons, etc. On a été aidé en cela par nos adversaires, en fait, qui sont venus nous aider. Et il y a même quelques joueurs néo-zélandais qui avaient sympathisé avec nos joueurs, qui ont voulu porter nos couleurs, donc les gamins ont accepté. D'un point de vue éducatif, c'était très bien parce qu'ils avaient des conseils en direct pendant le match. Et l'expérience est d'autant plus augmentée. Donc on reviendra en Nouvelle-Calédonie bon, avec beaucoup plus d'expérience, surtout des liens qui se sont tissés. Donc c'est vraiment un déplacement hyper intéressant et hyper riche.
Manu Jalabert, responsable du club Pacific 13. Ce déplacement aura également été l'occasion de se rapprocher d'autres équipes de la région, notamment les Tonga, qui devraient prochainement venir en Nouvelle-Calédonie. Toujours hors du territoire en football, pas de victoire pour Tahiti United et ses Calédoniens. Lors de leur 3e match de l'OFC Pro League, les Polynésiens avec dans leur rang Germain Iwegene, Joseph Atale et Potin Poma n'ont pu faire mieux qu'un nul contre le Vanuatu United, 2-2 hier. À noter tout de même que Germain Iwegene a ouvert le score sur une passe en profondeur signée Potin Poma, un but 100% calédonien. Le prochain rendez-vous du Tahiti United et de ses Calédoniens, ce sera mardi contre Auckland, toujours sur les terrains de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Sur le territoire du Var, les rameurs faisaient leur rentrée ce samedi avec la course d'ouverture 2026 qui se disputait sur l'Ansvata. Les équipages qui s'affrontaient sur des parcours de 7,5 km et 10 km en K2. Victoire de l'équipe Vaillé-Claude en V6, c'est une équipe de Toipin qui a été la plus rapide. En V3, la victoire est revenue à l'équipage du PC d'Imbéa. Il est 7h passé de 24 minutes, on termine ce journal avec la météo.
Oui, on va mettre la météo, Michael. On va
juste météo ce matin.
Oui, oui, c'était sympa. Ouais, la trou, elle était super. On va le mettre, le bon jingle, et c'est parti. Merci, Michael. Allez, on y va.
Socaport Peinture vous présente la météo. Socaport Peinture, de grandes marques adaptées à tous vos besoins. Tolin, Soitil, Unicalo, pour professionnels et particuliers, et des milliers de teintes disponibles. Socaport Peinture, c'est à Ducos.
Les couleurs du ciel. Avec vous Thierry, bonjour.
Allez, bonjour Mickaël, c'est parti. Vigilance jaune, donc ça concerne le nord, on va en parler tout de suite, pour des pluies et des orages sur Belep. Ça sera en particulier pour la nuit prochaine. Ce matin, le beau temps reste d'actualité, ça se voit déjà, hormis sur l'extrême nord où le ciel sera chargé et donnera des averses comme prévu. Le vent orienté est-sud-est pour ce matin entre 5 et 10 nœuds, voire en fin de matinée 10 à 15 nœuds sur le sud-ouest et la pointe nord-est. Cet après-midi, le soleil dominera, quelques averses isolées se déclencheront sur le versant ouest du relief. Le ciel sera très nuageux sur la pointe nord avec un risque d'ondée. Ce sera toujours sur Belep. Le vent orienté est-sud-est pour cet après-midi. Alors il va se renforcer, 10 à 15 nœuds, localement 20 nœuds avec des rafales prévues jusqu'à 30 nœuds sur le sud-ouest et la pointe nord. Les températures plus élevées que hier, très chaudes, entre 30 et 35 degrés, voire elles vont dépasser pour cet après-midi les 36 degrés sur l'ouest. Mickaël.
Merci beaucoup pour la météo et la technique.